Stop, c'est parti.
Comment ça marche le journalisme?
Sur Twitter, Instagram.
On est dans un moment de grande confusion.
You are fake news.
La bonne réponse.
L'instant M est ouvert à toutes et à tous jusqu'à 10h.
Quand on regarde une série, on sait que ça va se terminer.
Tu viens de nous spoiler?
Le spoil.
On ne se ferme pas les yeux aussi facilement qu'on se bouche les oreilles.
C'est fou comme la parole a souvent besoin d'une table. On dit de quelqu'un qui passe aux aveux qu'il ou elle se met à table. Une bonne engueulade ou une bonne réunion nécessite de tout mettre sur la table. Et je vous épargne l'importance dans un studio de radio de la table sur laquelle reposent les micros. Mais une table sert aussi à opérer un malade ou à l'examiner. Sans doute est-ce le sens qu'il faut y voir ici. Les couilles sur la table, voilà notre sujet du jour. C'est le titre d'un podcast qui examine la masculinité. Une émission érudite mais très accessible, souvent passionnante, qui s'intéresse au sexisme en partant des hommes. On y entend des spécialistes parler en vrac et dans le désordre de sexualité, d'injonctions sociales, de tâches ménagères, de harcèlement, de violence, de langage. Le tout avec une ambition affichée, de la domination masculine, faire table rase.
L'instant M. Dorothée Barba sur France Inter.
Bonjour Victoire Toyon.
Bonjour.
Et bienvenue sur France Inter. Vous êtes journaliste, créatrice de ce podcast qui existe depuis 2 ans, Les Couilles sur la Table, émission produite par Binge Audio, disponible gratuitement sur toutes les applications de podcast des smartphones, en ligne aussi hein, sur le site internet de Binge Audio. Le titre a sans doute contribué au succès du podcast au démarrage.
Oui, je pense. C'est un titre un peu vulgaire, mais que j'assume parce que c'est une expression très répandue dans la langue française. Et je trouve qu'il résumait parfaitement le projet de l'émission, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, d'examiner les couilles. Or, les couilles, c'est encore le symbole de la virilité et donc des hommes.
Et vous dites vous-même dans votre livre que vous avez du mal à ne pas visualiser l'expression.
Ah oui, oui, souvent les expressions, je les vois très littéralement.
Ce podcast devient aujourd'hui un livre, justement, on en parle dans un instant. Juste après la chronique de Xavier Delaporte, qui examine nos vies numériques chaque mardi dans l'instant M, c'est la fenêtre de la porte. L'église catholique connectée, voilà ce qui vous interpelle cette semaine. Bonjour Xavier.
Bonjour Dorothée, bonjour à toutes et à tous. Et oui, il y a quelques jours, le Vatican a annoncé la commercialisation d'un objet qui à première vue peut paraître incongru. C'est un e-rosaire, un rosaire connecté donc, 10 grains sombres, une croix intelligente qui peut stocker des données, à compléter avec une application à télécharger sur son téléphone. Le tout pour une centaine d'euros. Alors une fois activé, ça permet de choisir différents types de prières et surtout de mesurer ses progrès. Alors le Vatican justifie cet objet avec une formule digne d'une start-up. Ce rosaire, je cite, cherche à atteindre les frontières périphériques du monde numérique où habitent les jeunes. Alors on pourrait s'amuser de cette initiative de moderniser un instrument si ancien, mais on aurait tort. D'abord, sa commercialisation s'intègre dans une stratégie beaucoup plus vaste de la part de l'Église, celle qui tente de faire revenir en son sein une génération pour une part perdue et à contrer des courants très actifs dans les nouveaux médias, type les évangélistes. Alors pour ça, le Vatican a déjà pris place dans les réseaux, le pape aime se laisser prendre en selfie, on le sait, et depuis 2016, il est lui-même sur Instagram, @franciscus, il a un compte Twitter, @pontifex, et a lancé une application de prière Click to Pray. L'an dernier, est sorti une sorte de Pokémon Go version catholique où il s'agit de répondre à des questions théologiques pour ramasser des saints ou des personnages de la Bible. Et les officiels du Vatican disent chercher à mettre en place un, je cite, hub de contenu centralisé, c'est-à-dire vidéo, podcast, etc. En suivant, je cite encore, le business model de Disney. Mais la stratégie actuelle n'est pas aussi opportuniste qu'elle n'y paraît. En fait, le catholicisme et la papauté entretiennent une relation très ancienne avec les technologies de la communication, une relation un peu contre-intuitive et beaucoup plus harmonieuse qu'on peut l'imaginer. En 2014, à l'occasion de la journée que l'Église consacre traditionnellement à la communication sociale, journée qui se déroule le 23 janvier, hein, c'est parce que c'est le jour de la fête de Saint-François de Sales qui, à la fin du XVIe siècle, sut utiliser les progrès de l'imprimerie pour diffuser ses publications. Donc, ce jour-là, le pape François a tenu des propos assez surprenants. Il a dit « Internet est une chose vraiment bonne, un don de Dieu ». Et il a exhorté ses fidèles à devenir des citoyens du territoire numérique. Pour lui, il ne s'agit pas de laisser vide ce territoire, il faut partir sur les routes numériques, tel un bon samaritain digital en quête des âmes perdues dans les réseaux. L'image n'est pas de moi, c'est celle du pape. Alors on peut se dire « Ok, mais c'est parce que François, c'est un pape moderne ». Eh ben non, non, non. Benoît XVI, qui n'a jamais été d'un progressisme foudroyant, tenait déjà le même discours. Il considérait les réseaux sociaux comme, je le cite, « partie intégrante de la vie humaine » et il avait incité les catholiques à y être actifs, définissant en même un style chrétien de présence. Alors tout ça rappelle que la religion catholique fut une religion prosélyte et que, en tant que telle, elle a toujours été très attentive à user au mieux des moyens de communication, l'imprimerie bien sûr, même si elle a joué aussi un rôle dans le schisme entre catholiques et protestants, les journaux, la radio, la télévision, jusqu'à Internet. Ce rosaire connecté n'est donc pas en lui-même une bizarrerie, il est le fruit d'une longue histoire. Alors, quant à savoir ce qu'il pèse et pèsera face à la sécularisation des sociétés et au scandale à répétition sur la pédophilie au sein de l'Église notamment, c'est une autre histoire.
Merci Xavier Delaporte. Chronique à podcaster sur l'application France Inter.
L'instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Boys, itty bitty boys, Mississippi boys, inner city boys. I like the pretty boys with the bow tie. Get your nails did, let it blow dry. I like a big beard, I like a clean face. I don't discriminate, come and get a taste. From the playboys to the gay boys, go and slay boys, you my fake boys.
Elle aime toutes sortes d'hommes, la chanteuse américaine Lizzo est citée en exergue de votre livre « Les couilles sur la table » Victoire Toyon. On s'est dit que ça vous ferait plaisir de l'entendre ce matin. Ce livre est donc une déclinaison de votre podcast audio qui porte le même nom. Vous démarrez le bouquin en expliquant ce qu'il n'est pas, ce livre. Ce n'est pas un manuel pour apprendre à être un homme à vrai. Ce n'est pas non plus un pamphlet contre une entité abstraite qui s'appellerait « Les hommes ». Il s'agit d'une tentative de synthèse de tous les travaux que vous avez lus sur la masculinité. Qu'est-ce que ça veut dire finalement d'être un homme en France au XXIe siècle? Voilà le sujet?
Oui, c'est ça, c'est le sujet et c'est un sujet qu'on pense en fait assez rarement ou alors toujours en termes de il y a une crise, les hommes seraient en danger, ils seraient perdus, etc. Mais ce que ça veut dire encore aujourd'hui d'être un homme en France au XXIe siècle, c'est déjà de ne pas être une femme et ensuite implicitement c'est aussi d'être mieux que les femmes en fait parce qu'on considère toujours que le masculin est supérieur au féminin.
Alors justement, votre point de départ c'est de rappeler que la domination fait souffrir les femmes mais aussi les hommes, la domination masculine.
Oui, en fait, la domination masculine fait du mal à tout le monde. Et c'est pour ça que le féminisme, c'est pas du tout une guerre contre les hommes, c'est vraiment une guerre contre la domination masculine. Quand je dis que ça fait souffrir les hommes, ils ont aussi des privilèges et des avantages à cette domination masculine. Mais très concrètement, il y a plein de désavantages au fait d'être un homme. Ce sont des carcans assez contraignants. Ça implique de ne pas exprimer certaines émotions. Ça implique que si vous n'êtes pas dans les canons de la masculinité dominante, si vous n'êtes pas fort, que vous rapportez pas plein d'argent, que vous voulez pas être un dominant, etc., et ben vous êtes pénalisé aussi. Donc oui, je pense qu'en tant qu'être humain, ça pénalise les hommes.
Alors je le disais, les couilles sur la table, c'est un podcast audio, une émission qui a une solide communauté d'auditeurs et d'auditrices aujourd'hui, Victoire Toyon. Pourquoi êtes-vous passé au papier? Ce livre a-t-il pour ambition de s'adresser à celles et ceux qui n'écoutent pas votre podcast, par exemple?
En fait, le livre, il est pour tout le monde. Il est pour celles et ceux qui ont écouté tous les épisodes et il est aussi pour celles et ceux qui les ont pas écoutés. Il s'adresse aux femmes aussi bien qu'aux hommes. Il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances en féminisme et tout ça pour le lire. C'est vraiment une synthèse de tous les travaux, de tous les chercheurs et les chercheuses qui sont venus dans l'émission. Et moi, j'avais envie de passer au livre d'abord parce qu'on me l'a réclamé. Je reçois énormément de courriers des auditeurs et des auditrices qui disent que ça leur fait du bien, ces conversations, qu'ils ont des prises de conscience.
Des conversations avec des chercheurs et des chercheuses, des intellectuels, des spécialistes.
Oui, c'est ça. Et que ça leur fait du bien, que ça leur fait prendre conscience de tout un tas de choses. Et donc, ils me réclamaient un livre. Et là, on en est à 50 épisodes. Donc, en fait, ça va aller plus vite de lire le livre que d'écouter les 50 épisodes.
Alors, on va écouter un extrait récent. Virginie Despentes vous a accordé récemment un long entretien qui a donné lieu à 4 épisodes de podcast. Il fut question, notamment, de consentement.
Est-ce que, par exemple, vous pensez qu'un homme peut violer sans s'en rendre compte?
Ah oui.
Ah oui?
Les hommes de ma génération et les hommes plus vieux ont été éduqués de telle façon que vraiment ça comptait pas ce que pensaient les femmes. Ils baisaient tout seuls. En gros, ils baisaient avec des corps, mais de gens qui n'étaient pas vraiment là. Donc ça leur, il y avait quelque chose sur le consentement féminin qui leur échappait complètement, c'est vrai. Il y avait toute une culture qui leur disait qu'il faut toujours un peu les forcer quand elles disent non, c'est oui. Hollywood, là-dessus, a vraiment fait un vrai travail de fond. Il y avait toute une culture aussi où le désir masculin, il fallait toujours l'accueillir avec joie, avec une érection, c'est formidable. On pouvait pas la montrer, mais il fallait toujours la célébrer, parce qu'à chaque fois, c'était comme la preuve, je sais pas, de sa vitalité. Et on s'en foutait de à travers quel corps elle allait passer, dans quelles circonstances. Je pense que la surprise des gens autour de Strauss-Kahn, quand il est tombé, elle était sincère. Ils savaient très bien ce qu'il était. Enfin, tu vois, après, on a compris petit à petit, on savait très bien qui c'était, mais c'était simplement, c'était tellement normal d'être... D'être vigoureux, quoi, d'être vigoureux, d'être viril, quoi, d'être un mec. Hein. Et c'est, du coup, oui, je pense qu'il y a plein de mecs qui ont pu faire des trucs et qui, sincèrement, seraient surpris de savoir que 20 ans après, la fille pense encore et qu'elle a envie de vomir.
Je recommande très vivement l'écoute des 4 épisodes des Couilles sur la table avec Virginie Despentes. J'imagine l'émotion qui fut la vôtre, Victoire Toyon, lorsque vous avez reçu cette écrivaine, puisque vous le dites clairement dans le livre et dans le podcast, King Kong Theory, son essai féministe paru en 2006, a changé votre vie. C'est un déclic majeur.
Oui, c'est un déclic majeur, comme pour beaucoup de femmes, je pense, et d'hommes. C'est un très grand livre, King Kong Theory. Et aussi, tout le projet des Couilles sur la table est en fait inscrit dans King Kong Theory. Virginie Despentes, elle a des formules choc qui résument très bien ce propos-là, où elle dit qu'est-ce que ça exige au juste d'être un homme, un vrai, répression des émotions, ne pas pleurer, être angoissé par la taille de sa bite, etc. Et voilà, elle fait toute la liste comme ça de toutes les contraintes. Et c'est aussi ça qu'on essaie d'examiner dans les Couilles sur la table.
Et un autre moment très fort dans cet entretien. Virginie Despentes explique que beaucoup de femmes viennent la voir régulièrement ou lui écrivent pour lui dire « Moi aussi, j'ai été violée » depuis qu'elle a fait le récit hein, dans King Kong Theory, justement, du viol dont elle a été victime. Et Despentes ajoute « Les violeurs, eux, ne viennent jamais dire qu'ils ont violé. » Eh bien, à vous, si, Victoire Toyon, vous avez reçu des témoignages de violeurs. Deux de ces témoignages sont cités dans votre livre. Pourquoi ce choix ?
Eh bien, parce que je pense que c'est une parole qu'il faut entendre.
Ça n'a pas été simple de prendre cette décision ?
C'était très difficile à prendre comme décision. Évidemment, ceux qui m'ont écrit les lettres ont été contactés, ils sont d'accord, etc. Mais je pense qu'il faut examiner la violence, en fait. Il faut commencer à la regarder en face. C'est-à-dire que les femmes ne sont pas violées toutes seules, en fait. En fait, les femmes, elles sont violées par des hommes. Et si on connaît énormément de femmes qui ont été victimes de viols, et que 80% de ces femmes, elles ont été violées par des hommes qu'elles connaissaient, eh bien, c'est terrible à dire, mais ça veut dire qu'on connaît aussi beaucoup de violeurs. Et donc, il va falloir s'occuper de cette violence-là, en fait. La question que je pose et qui m'obsède beaucoup dans l'émission, c'est pourquoi il y a autant d'hommes violents ? Voilà, et c'est à ça qu'on essaie de répondre. Et
donc, la violence sous toutes ses formes.
Oui, les meurtriers, les terroristes, les hommes qui sont violents avec leurs épouses, etc. Mais ce sont des hommes.
Alors, votre sujet, c'est bel et bien la domination masculine. Je suis moi aussi, par certains aspects, du côté de la domination. C'est ce que vous écrivez dans les premières pages du bouquin. Vous êtes une femme blanche qui n'a pas connu le racisme. Vous êtes hétérosexuelle, orientation valorisée par la société. Vous avez bénéficié des privilèges de classe sociale supérieure, un père médecin et une mère guide de voyage. C'est vous qui l'écrivez, hein, tout ça. Mm-hmm. Vous tenez à préciser d'où vous parlez. Et ça revient aussi beaucoup dans le podcast. Est-ce que vous pensez que les médias généralistes devraient, eux aussi, reconnaître leurs privilèges et dire d'où ils parlent?
Ouais, j'ai pas de leçon à donner à mes consoeurs et à mes confrères, mais moi, comme journaliste, puisque je suis journaliste, je suis pas militante, ça me paraît important d'avoir conscience d'où je parle et de le rappeler, en fait. Surtout quand on aborde des sujets comme ça, on n'est jamais neutre, on n'est pas objectif, en fait, ça n'existe pas.
Check tes privilèges, hein, c'est la formule consacrée dans les milieux militants.
Dans les milieux militants, on dit ça, ouais, c'est-à-dire reconnaître d'où tu parles et comment ça peut influencer la façon dont tu abordes des questions et dont tu en parles et les rapports de pouvoir qui se créent avec les gens avec qui tu parles.
Mais n'est-ce pas aussi une façon de renoncer à tendre vers l'universel? Après tout, ce qui compte, ce sont les gens à qui vous tendez votre micro, Victoire Toyon. C'est pas vous qui comptez.
Mais moi, je crois qu'on est tous humains. Vraiment, je crois à ça, mais que, enfin, je veux dire, on est tous des êtres humains. On a tous le droit à la parole. On devrait tous avoir le droit à la parole et le même accès à cette parole. Mais il y a plein de rapports de pouvoir dans la société qui font qu'on n'est pas égaux, en fait, encore. Et il faut reconnaître ça.
Vous n'êtes pas militante, dites-vous, vous êtes journaliste. Oui. C'est pas un travail militant que ce travail féministe de lutte contre la domination masculine ?
Alors, non, c'est un travail engagé. C'est-à-dire que je suis féministe, mais moi, je pose des questions, en fait. C'est ça, mon travail de journaliste, c'est d'inviter des personnes et de leur donner la parole pour qu'ils puissent exposer correctement leurs pensées. Et surtout, ça se fait au service des auditeurs et des auditrices pour que ça produise des prises de conscience. Et ils me le disent, ils sont très nombreux à me le dire, que ça vraiment, ça les aide et ça change des trucs très concrets dans leur vie.
Ce qui est très frappant, c'est la facilité avec laquelle vous reconnaissez vos doutes dans plusieurs épisodes du podcast, et notamment sur la prostitution. Vous dites clairement, je ne sais pas quoi en penser, je n'ai pas encore d'opinion sur le sujet. Là, on est à la frontière entre journalisme et militantisme.
Non, enfin, je sais pas. Il me semble que il faut être. Moi, je défends une ligne où on est absolument sincère dans tout, dans les questions qu'on pose, les questions que je pose à mes invités, c'est des questions que moi je me pose sincèrement. Je sais que des auditeurs et des auditrices se les posent aussi, et je trouve qu'il faut reconnaître en fait quand on sait pas. Quand on a des doutes, et qu'encore une fois, moi, mon travail, c'est d'être au service des auditeurs, des auditrices et des intellectuels que j'invite.
Est-ce que vous connaissez la proportion d'hommes et de femmes parmi ceux et celles qui vous écoutent ?
Alors, on n'a pas de statistiques précises là-dessus. En revanche, je reçois énormément de courriers et de messages sur les réseaux sociaux. Ils sont signés autant par des hommes que par des femmes, de plein de milieux différents, de plein d'âges différents. Et donc, il semblerait qu'il y ait beaucoup d'hommes qui m'écrivent. Et encore une fois, eux disent que d'entendre parler de la domination masculine, de réaliser quels privilèges eux ils ont, et ben ça leur ouvre les yeux et ça leur fait du bien.
Souligne-t-on parfois ou vous reproche-t-on parfois que ce soit une femme qui anime ce podcast consacré à la masculinité ?
Oui, c'est arrivé, mais j'assume ça très bien. Je suis journaliste, donc je pose des questions, et je suis une femme, ce qui me donne un point de vue particulier sur la domination masculine, puisque je la subis. Et donc, quand on subit une domination, on a un point de vue particulier sur elle, c'est-à-dire qu'on voit des choses qu'on ne voit pas quand on est en situation de domination.
C'est compliqué, hein, globalement, de reconnaître la domination dont on bénéficie.
Je ne sais pas.
Parce que dire d'où on parle, c'est ça surtout. C'est dire, voilà, je bénéficie de ce système de domination-là.
Ben oui, et c'est ce que disent aussi des hommes, c'est ce que, dont je parle dans le livre, mais c'est pas une histoire d'être coupable, en fait. On n'est pas coupable d'être né homme, etc. Mais après, c'est qu'est-ce qu'on en fait, en fait. Et je pense que les hommes ont intérêt au féminisme à la fin. C'est-à-dire, ils vont perdre une partie de leurs privilèges. Mais le livre essaie de répondre à la question de que faire, en fait, une fois qu'on a reconnu tout ça, comment on fait tous ensemble pour construire un monde qui est plus égalitaire, où il y a une vraie égalité entre les femmes et les hommes. Et ça implique les hommes, forcément, en fait.
Un festival du podcast a eu lieu la semaine dernière à Paris, le Paris Podcast Festival, deuxième édition. Et à cette occasion a été dévoilée une enquête de l'Institut Havas avec le CSA, enquête qui révèle que l'immense majorité de ceux et celles qui écoutent du podcast, 75%, n'en écoutaient pas il y a encore un an. L'essor, il est donc aussi récent que spectaculaire. Vous diriez que le podcast, c'est l'espace idéal pour ce sujet-là, pour parler de sexisme et de domination masculine, Victoire Toyon.
Oui, mais aussi de questions...
C'est le média de l'ère MeToo.
Certainement, c'est-à-dire que MeToo, ça a été le moment où les femmes ont commencé à être écoutées. Et il se trouve que dans le podcast, on écoute, on laisse le temps. Et mes invités dans l'émission et dans le livre aussi, ils ont le temps de s'exprimer, de parler, etc. Et peut-être, oui, qu'on n'avait pas ce temps-là à la télévision, dans les médias traditionnels. Et
vous aussi, ne pourriez pas faire cette émission dans un média généraliste ?
Eh bien, en tout cas, ça ne s'est pas produit. Ça s'est produit dans le podcast parce que j'ai le temps de le faire. Parce que voilà, les épisodes, ils font 30 minutes ou 40 minutes. Et c'est un espace très particulier.
Alors, un petit retour en arrière, j'aimerais qu'on remonte un peu le temps. Vous avez travaillé à la télévision auparavant, Victoire Toyon, sortie d'école de journalisme. Vous faisiez des reportages pour les JT de France 2. Et ça vous a inspiré, il y a 2 ans, une pastille de 10 minutes diffusée sur Arte Radio, toujours ô combien d'actualité.
Pour cette mère de 5 enfants, la composition des repas est chaque jour un casse-tête économique.
Pour cette mère de 5 enfants, la composition des repas est chaque jour un casse-tête économique. Économique.
Non, faut baisser plus la voix à la fin.
Mais d'où ça vient ? Pourquoi les journalistes de télévision se sont-ils tous mis à parler comme ça ?
Déterminé, l'ancien militaire a fédéré
4000 vaches, moutons, chevaux et autant de crottins
grâce à une caméra de surveillance dans son entrée.
Parmi les infidèles, près d'une sur deux consultent
des haricots verts.
Ils croient que c'est ce que leurs chefs attendent d'eux.
Mais les chefs attendent pas ça ?
Et les chefs sont paradoxaux parce qu'ils se plaignent de l'uniformisation, c'est les premiers à s'en plaindre, et en même temps ils ne font pas ce qu'il faut pour que ça change.
Et là, c'est le drame, c'est le titre de cette chronique, toujours en ligne hein, sur Arte Radio. Vous y dénoncez le formatage des journalistes avec beaucoup d'humour, cette façon bien particulière de massacrer la ponctuation pour inventer des virgules qui n'existe pas. C'est assez ironique finalement parce qu'on vous reprochait votre voix à la télé, Victoire Toyon. Vous n'aviez pas trouvé votre voix et aujourd'hui vous animez une émission sonore qui marche très bien.
Eh bien oui, je ne sais pas quoi répondre à ça, mais oui, j'avais pas la bonne voix, pas le bon ton, pas les bonnes préoccupations, voilà, ça n'allait pas.
Et puisqu'on parle de formatage, est-ce qu'il n'y a pas aussi une voix propre au podcast, un ton
très intimiste, une façon de susurrer un peu dans le micro. Ce serait une forme de formatage aussi de votre média ?
Oui, j'imagine que chaque format produit des canons, etc. Mais par exemple, moi, dans le podcast, à la fois on a le temps et à la fois je suis obsédée par l'idée de ne pas faire perdre de temps aux auditeurs et aux auditrices, donc d'aller à l'essentiel, de faire en sorte que mes invités puissent dire leurs pensées, qu'elles soient directement accessibles en un minimum de temps.
Merci beaucoup, Victoire Toyon. Les couilles sur la table, version papier, c'est donc un livre à paraître demain, publié par Binge Audio, et on peut trouver les 50 épisodes de votre podcast, notamment ceux avec Virginie Despentes, gratuitement sur toutes les applications de podcast Binge Audio. Merci beaucoup et bonne journée à vous.
Merci.